On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons aujourd'hui commencer une série assez longue d'homélie qui portera sur le goulag. Non pas tant pour la culture historique et politique, ce serait déjà intéressant, mais aussi pour en tirer des leçons religieuses pour notre union à Dieu, pour notre sanctification, dans ces conditions-là. Parce que la grande leçon du goulag, eh bien, elle va nous faire toucher du doigt, de manière très pratique. C'est plus les épîtres de Saint Paul et Saint Pierre, on ne comprend pas les importances d'une parole évangélique, on ne voit pas les conséquences très pratiques de leur enseignement. Donc l'expérience du goulag va nous faire toucher eh bien, cette vérité que l'on connaît, donc par ailleurs de manière théorique, mais là qu'on va toucher du doigt, que l'oubli de Dieu entraîne nécessairement la mort de l'homme. Alors mort spirituelle évidemment, mais aussi mort physique, politique. L'oubli de Dieu va nécessairement entraîner le chaos. Ça ne peut pas être autrement. Et plus nous avancerons dans ce sujet, plus vous allez voir l'intérêt qu'on peut recueillir pour progresser dans la vie chrétienne, pour, là encore, ne pas se faire surprendre devant la violence de la croix. Parce que la croix, c'est violent. Être crucifié, c'est violent. Et pourtant, le chrétien, d'une manière ou d'une autre, sera crucifié. Peut-être pas par des hommes, hein. Mais parfois uniquement par la tentation, ou par les démons, ou par notre mort, ou par notre maladie. Mais aujourd'hui donc, on va juste dire quelques mots d'introduction générale. Le goulag, pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes peut-être, c'était un vaste ensemble de camps, de travaux forcés, qui a réduit en esclavage des millions de Russes. Ça s'est passé en Russie, sous l'ère du communisme. Le communisme, pour ceux qui ne le savent pas, les enfants, c'était une idéologie qui était fondée sur le matérialisme athée. Il n'y a pas de l'esprit, on est comme les animaux, il n'y a que la matière qui compte. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a que la matière. C'était ça le communisme. Et cette idéologie prétendait apporter ainsi eh bien, le bonheur sur terre à l'homme, puisqu'elle avait dégagé la superstition. Selon elle, Dieu est une superstition, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit, il n'y a que la matière. Donc progressons dans la technologie et l'homme va être heureux. Voilà le résumé, l'idéologie communiste, matérialiste, athée, qui continue. Le communisme n'a plus grosse influence, le matérialisme athée, lui, continue. Voilà pourquoi l'intérêt de s'intéresser au goulag. Donc en réalité, ça c'est l'idéologie, mais la réalité historique, c'est qu'en URSS, il y a eu 20 millions de morts. En Chine, 65 millions de morts. Au Vietnam, 1 million. En Corée du Nord, 2 millions. Au Cambodge, 2 millions. Dans l'Europe de l'Est, 1 million. Dans l'Amérique latine, 200 000. En Afrique, près de 2 millions. En Afghanistan, 1,5 million, etc. Et les mouvements communistes internationaux et les partis communistes qui n'étaient pas au pouvoir ont fait des dizaines de milliers de morts par le terrorisme ou d'autres actes. Et là, on parle que des morts physiques. On ne parle pas des conséquences politiques, morales, etc. Et le total approche environ la barre de 100 millions de morts pour une idéologie qui a traversé le XXe siècle, 1920-1980. En 60 ans, environ 100 millions de morts pour une idéologie qui voulait apporter le bonheur sur Terre. C'est déjà pas mal. Pourquoi ces morts? Eh bien parce que, comme pour les révolutionnaires français, les jacobins, car les communistes, les léninistes se sont inspirés de Robespierre, de Danton, de Marat et de tous ces révolutionnaires français, eh bien, ils voulaient créer un monde nouveau, qui était fondé sur un messianisme, une religion, en fait, c'est des religions, des fausses religions, donc qui créent le malheur. Un messianisme nouveau, charnel, matérialiste, donc utopique. Et quand c'est utopique, c'est destructeur. Quand vous voulez imposer votre rêve dans la réalité, ça se plante. Il y a un bug. Tous ceux qui vont s'opposer à ce délire, à cette idéologie, eh bien, devaient être exterminés physiquement, pour le coup. Pas chassés, mais exterminés physiquement, donc tués. Parce que, dans l'idéologie, ils s'opposaient au bonheur du peuple. Ils seront donc considérés comme des traîtres, comme des ennemis du peuple. Comme les chouans étaient considérés comme des ennemis du peuple, parce qu'ils étaient ennemis de la révolution. Les bolcheviks vont donc éliminer d'abord légalement, par l'administration, par les lois, puis ensuite physiquement, s'il le faut, toute résistance, même passive. Même passive au pouvoir, il fallait mentir qu'on était... faire semblant d'eux. Parce que si on ne faisait pas semblant d'eux, c'était déjà être ennemi du peuple. Donc des fusillades, des emprisonnements sans jugement, des massacres de paysans révoltés, des famines qui seront provoquées, ça c'est intéressant. 6 millions de morts de par famine en Ukraine, ils s'en souviennent. C'est une famine qui a été provoquée par l'homme, c'est pas dû à la sécheresse, c'est pas dû à une maladie. Provoquée par l'homme. Une famine qui a fait 6 millions de morts. On peut provoquer des virus, hein. On peut faire croire que. Et puis bien sûr déportation, purge, etc. Alors l'occultation de la dimension criminelle du communisme dans les médias et chez les politiques, il faut la repérer, en dire un mot très rapide. D'abord, c'est la première raison pourquoi on parle si peu de ce cataclysme du communisme, c'est parce que nous sommes un monde issu de la révolution, nous vivons un monde matérialiste et donc on ne veut pas casser l'icône, on ne veut pas casser l'image, on ne veut pas montrer la réalité de ce que c'était. La deuxième raison tient à l'imposture du procès de Nuremberg, vous savez, après-guerre, en 1947. Ce procès, fait par les alliés qui avaient gagné la guerre, prétendait bien juger des criminels allemands pour crimes de guerre, pour crimes contre la paix ou pour crimes contre l'humanité. Et ce procès de Nuremberg a donné naissance à un mythe qui est celui de l'intrinsèque perversité des Allemands et de l'intrinsèque vertu des alliés. Les Allemands étaient très 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 méchants et que des barbares, d'où le procès de Nuremberg, voilà. Tandis que les alliés n'ont rien à se reprocher, ils ont lutté pour le beau, pour la démocratie, toute la propagande que l'on connaît. Mais quand on y regarde de plus près, c'est en fait plutôt le contraire qui s'est passé. Non seulement en qualité et en quantité, ce sont les alliés qui ont perpétré les plus grands crimes de guerre. Et un simple fait nous le montrera. Lorsque les alliés mettent en place ce procès de Nuremberg qui prétend juger les criminels de guerre allemands, nous sommes donc le 8 août 1945, eh bien il y a deux jours, ils viennent de lancer une bombe sur Hiroshima et ils s'apprêtent le lendemain à lancer une deuxième bombe atomique sur Nagasaki. Où en quelques dizaines de secondes, même pas en 14 secondes, ils vont atomiser près de 100 000 Japonais, civils. Hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ne sont pas des soldats. Donc là, on a un parfait crime de guerre, qui n'a jamais été jugé. Le soldat, le pilote du bombardier, a été décoré avec son équipe. On a décoré ce type-là, qui a obéi aux ordres. Pas été jugé. Et là aussi, ce serait l'occasion d'un autre. Il y a un autre mythe aussi. Il n'y a pas que le matérialisme athée qui nous tue, c'est la technologie. Le progrès va rendre l'homme heureux. Ah oui, on le voit bien, hein. Ça, c'est certain. Le progrès technique va rendre l'homme heureux. Non. Parce que le progrès technique qui a oublié Dieu tue l'homme. Et va le tuer de manière encore plus intransigeante que l'homme. Parce que la technique, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas de nuance. Une puissance. On voit bien, la puissance technologique est effrayante, parce que c'est une puissance mise au service de ceux qui ont oublié Dieu. Donc ça va tuer l'homme, ça tue l'homme. La dernière raison de ce silence médiatique sur le communisme, tient au fait que des juifs ont eu une grande part de responsabilité dans ce phénomène, dans le mouvement en général, et dans la gestion de cet univers concentrationnaire, du goulag même. De nombreux juifs athées étaient imprégnés d'espérance messianique, charnelle du Talmud, et ils voyaient l'instauration d'une paix universelle grâce à la révolution marxiste. La liste des juifs bolcheviks qui se trouvaient à la tête du régime en Russie est interminable. Dans les années 20, et dans les débuts des années 30, eh bien, sont restés, dit un auteur sur Staline et les Juifs, sont restés dans la mémoire comme l'âge d'or des Juifs de Russie. Donc, les années 20 et les années 30, c'est l'âge d'or des Juifs en Russie. C'est historique. Un autre témoignage assez connu, c'est celui d'Elie Wiesel, un Juif assez connu, un mythomane, mais peu importe. Voici ce qu'il écrivait. « Ma première leçon de communisme, ce fut Ephraim qui me la donna. Ephraim, un agitateur communiste. Ephraim, le futur juge rabbinique, distribuait des tracts clandestins. » Celui-ci répondait « Je n'ai pas perdu la raison. Écoute-moi bien. Je désire toujours sauver le genre humain, délivrer la société de ses maux. Je souhaite toujours faire venir le Messie. Seulement, j'ai découvert une nouvelle méthode. C'est tout. J'ai essayé la méditation, le jeûne, la cèse, sans aucun succès. Il n'existe qu'une voie qui mène au salut, et cette voie, c'est l'action. Je te parle d'une action, non pas sur Dieu, mais sur l'histoire. La révolution, nous devons la faire, car c'est Dieu qui nous l'ordonne. Dieu veut que nous soyons communistes. Voilà quel était le schéma de beaucoup de juifs bolcheviques. Autre fait qui manifeste cela, c'est que la Russie, les Juifs représentaient 5% de la population russe à l'époque, au début du XXe siècle, c'est-à-dire 6 millions de personnes. Eh bien, ces 6 millions de personnes juives en Russie représentaient 50% des militants communistes, des révolutionnaires. 50% des révolutionnaires étaient juifs, vous voyez la disproportion. Polyakov, un autre juif, confirme ce fait historique. Rapidement, les Juifs devinrent, dans l'Empire russe, l'ethnie subversive par excellence. Leur proportion parmi les condamnés politiques doublait de décennie en décennie pour atteindre 29% en 1900. Cette proportion était encore plus élevée dans les comités centraux et autres postes de commandement des organisations anti-gouvernementales, où les Juifs jouaient le rôle moteur et même initiateur. Donc nombreux, mais en plus aux postes d'influence dans la subversion communiste. Comprenez que voilà pourquoi toutes ces raisons font qu'aujourd'hui on parle très peu du fléau communiste. Dernière citation sur ce sujet, le cardinal Auguste Longle, c'est un Polonais, c'était donc le primat de Pologne, l'évêque le plus haut de Pologne. Il écrivait dans une lettre pastorale en 1936 ceci. Il ne dit pas que ça, mais il dit aussi ceci. C'est un fait que les Juifs mènent la guerre contre l'Église catholique, qu'ils baignent dans la libre pensée et qu'ils forment l'avant-garde de l'athéisme, du mouvement bolchevique et de l'activité révolutionnaire. C'est un fait que les Juifs ont une influence corruptrice sur les mœurs et que leur maison d'édition propage la pornographie. Il est vrai que les Juifs fraudent, pratiquent l'usure et font commerce de prostitution, etc. Alors, en ce qui concerne le goulag, celui qui, avec l'appui bien sûr de Staline, qui lui n'était pas juif, mais qui était responsable bien sûr de cela, va mettre en place ce vaste empire économique du goulag, qui était fondé sur une main-d'œuvre esclave. Eh bien, c'est un juif qui va être le patron de cette organisation, qui s'appelait Genrikh Enoch Yagoda, qui était le chef aussi de la police secrète et un personnage emblématique du régime stalinien. Et un historien israélien assez honnête a eu le courage d'écrire que ce Yagoda, eh bien, était le plus grand criminel du XXe siècle et qu'il portait la responsabilité d'au moins 10 millions de morts. On ne doit pas oublier, disait cet historien israélien, que certains parmi les plus grands criminels des temps modernes sont juifs. Beaucoup de juifs ont vendu leur âme aux démons de la révolution communiste et ont du sang sur les mains pour l'éternité. Donc pour découvrir le goulag, eh bien sûr nous allons nous servir principalement dans les anecdotes de l'ouvrage incontournable de Solzhenitsyn, qui a été au goulag, qui s'appelle l'archipel du goulag. L'archipel, c'est des milliers d'îles, des îlots dans l'Empire russe, qui étaient ces camps de concentration de travaux forcés pour esclaves. C'est 1500 pages, c'est 3 volumes, mais elles sont d'une richesse incomparable et effroyable. Il a pu récolter là une somme d'expériences diverses de gens qui avaient connu le goulag et qui vont nous permettre de toucher l'extrémité de l'âme humaine. Parce que dans la souffrance, dans une si grande souffrance, on va à l'essentiel. Enfin, certains vont à l'essentiel et donc les jugements sont plus purs, plus perçants et bien plus justes. que des anecdotes de la vie de tous les jours. Le goulag, par sa logique matérialiste, athée, par son principe orgueilleux, par sa force de mensonge, eh bien, va révéler l'image du monde moderne, parce que nous sommes toujours dans un monde matérialiste athée, gouverné par ces mêmes initiateurs de la subversion. Et ce goulag donc ne sera pas seulement l'image de notre monde moderne, mais il va aussi révéler, il va être le miroir de notre propre âme, parce qu'on va voir que c'est pas... Il y a du goulag en nous. Il y a du goulag en nous. Si un goulag peut exister chez les hommes, c'est parce que les hommes sont déjà dans le goulag ou initiateurs eux-mêmes d'un goulag. Et donc, l'archipel du goulag, ce sera une petite somme de psychologie, de morale et de politique. Au goulag, toute la complexité de la vie va se simplifier. Et l'expérience amère du goulag va nous aider à mieux comprendre ce que l'apôtre Saint Paul enseignait aux chrétiens de la part du Christ. Il disait, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le moissonnera. Celui qui sème dans sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » C'est ça que va nous montrer le goulag. Ça, on le connaît, mais on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'une société moissonne dans la chair. C'est le chaos, et ça peut être le goulag. Ou qu'est-ce qui se passe dans une société lorsqu'elle plutôt travaille à l'esprit, c'est la chrétienté. C'était pas le paradis sur terre, mais c'était quand même autre chose, la chrétienté. C'était Saint-Louis, Saint-Thomas d'Aquin, c'était les cathédrales, c'était l'art roman, etc. C'est autre chose. C'était toute la poésie, l'esprit chevaleresque, la poésie, la déférence envers les femmes, etc. La protection des faibles, la charité, les œuvres de charité, c'est autre chose. C'est pourquoi, dit saint Paul toujours dans notre épître, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Au contraire, parce que dans la fiction, on peut perdre courage. Qui ne va nier cette réalité ? Lorsqu'on est sans consolation ou nous-mêmes tentés, on perd courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Au contraire, alors même que notre homme extérieur dépérit, donc la déchéance, la mort, la maladie ou la persécution, c'est ça qui fait mourir l'homme extérieur. Eh bien, notre homme intérieur, dit saint Paul, se renouvelle de jour en jour. Et c'est ça qu'il va essayer de faire. Et c'est ça qui n'est pas facile. L'homme intérieur doit vivre. Car, dit saint Paul, notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos regards ne s'attachant pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps. Les invisibles, elles, sont éternelles. Et c'est ça toute la difficulté, c'est ça la solution ici-bas. Il n'y aura pas le paradis sur terre. Ici-bas, ça n'existera plus jamais. Mais la seule solution de passer à travers ces épreuves et ces difficultés, c'est de se fixer. Non pas nier les visibles, on est sur terre et il faut avoir les pieds sur terre, mais il faut aussi en même temps fixer les choses invisibles. Il n'y a que ces choses éternelles qui ne peuvent nous tirer vers le haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où. Surveillez vos amis, restez planqués chez vous. Nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On dit état policier, allez. Paniquez, 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 paniquez. Paniquez, paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards qu'un moyen qui baisse docilement leurs culottes et qui nous prouve dans la main qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons au service de nos portefeuilles. Sous les prétextes les plus grossiers ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces
pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise, et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Respirez plus.